Bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle audio rencontre avec cette fois-ci une invitée très spéciale pour moi, Émilie Buldop.
Bonjour, enfin, et salut.
Alors oui, spéciale pour moi parce que ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. À cette époque où La Passe Miroir venait juste de sortir, où c'était pas particulièrement connu, il y avait Émilie qui tout de suite, voilà, là, elle était sur le coup, elle s'est emparée du premier tome et elle lui a fait une publicité incroyable. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Le nombre de personnes en dédicace qui m'ont dit « moi je vous ai connu à travers Émilie Buldop », je ne les compte plus. Donc merci Émilie, voilà, merci pour ce que... Et tu m'as suivi à travers chaque tome, jusqu'au dernier, qui n'était pas forcément le plus évident, et voilà, fidèle jusqu'au bout des ongles.
Oui, oui, oui. Merci à toi, moi j'ai rien fait, tu sais, moi c'est mon travail de partager mes lectures et mes coups de cœur, et en l'occurrence c'est le plus gros coup de cœur et ma plus belle lecture depuis un sacré paquet d'années maintenant, donc c'est normal que j'en parle. Il faut parler de ce qu'on aime, tu vois.
Mais c'est bien parce qu'on va parler de ton travail justement. Tu es là pour ça. Alors, le nombre de fois aussi où tu m'as, moi, invité à des lives, des rencontres, voilà, tu m'as souvent interviewé. J'étais très contente cette fois-ci de pouvoir un petit peu inverser les rôles. Et voilà, cette fois-ci, c'est toi qui es sur le siège de l'invité, qui va te prêter aux questions. Et voilà, ce sera l'occasion de voir un petit peu ton propre parcours, ce que tu fais, voilà, tout savoir.
D'accord, je répondrai à toutes les questions.
Voilà, donc vous avez bien reçu sur le chat.
N'abusez pas trop, mais je vais essayer de répondre à tout ce que je peux. Mais je stresse un peu, donc soyez doux. D'habitude, moi, je suis sur le siège en face. C'est quand même pas pareil.
T'inquiète pas, il y a un bouton éjectable. Je suis jamais vraiment...
Ah, merveilleux.
En tout cas, là, j'avais regardé sur ton profil la façon dont toi, tu te définissais. Créatrice de contenu sur beaucoup trop de réseaux. J'ai commencé par parler exclusivement de livres avant de m'autoriser à partager autour de toutes, avec une majuscule, mes passions. Donc, j'ai trouvé effectivement, ça résumait plutôt bien les choses. Moi, je t'ai connue à mes tout débuts en tant que chroniqueuse littéraire. D'ailleurs, c'était l'époque où je découvrais ce qu'étaient les chroniqueurs, parce que je me souviens, c'était cette époque où Gallimard Jeunesse me dit « Bon, alors, on a distribué des SP aux chroniqueurs. » Il dit « Oulala, tout doucement. Des SP, c'est quoi? Les chroniqueurs, c'est qui ?» Donc ça, voilà, pour moi, c'était mes tout débuts. Donc, SP pour Service Presse. Je pense que ça, c'est une notion que toi, tu as dû bien connaître en tant que... Voilà. Mais moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce qu'on voulait avec les SP. Donc, ce sont ces exemplaires qui sortent en avant-première. Parfois, ce n'est pas toujours les exemplaires finaux. Parfois, c'est les dernières moutures avant les corrections finales. Donc, parfois, il y a des petites coquilles encore qui peuvent traîner avec une couverture provisoire. Toi, tu l'as eu, le service presse de La Passe Miroir ?
Alors, moi, j'ai eu le service presse de La Passe Miroir tome 3 et le tome 4, j'ai carrément eu le PDF, tu sais, parce que je l'avais eu bien avant la sortie officielle.
D'accord.
Et j'ai signé un contrat de confidentialité.
Oui, mais oui, j'ai le souvenir de ça que tu avais. Ouais. Ça, c'était incroyable quand même, le contrat de confidentialité. Tu m'avais dit que ça t'arrivait pas tous les jours.
Ah non. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive même, d'ailleurs. Mais j'ai signé les yeux fermés, il n'y avait pas de souci.
Et donc, voilà, j'ai aussi découvert la notion de chroniqueur, donc ce que tu étais.
Oui, en fait, on employait à l'époque le terme chroniqueur pour faire une distinction, une distinction, ça se dit ?
Oui, tout à fait.
Une distinction entre les critiques littéraires professionnelles et finalement les créateurs de contenu un peu plus, entre guillemets, amateurs.
D'accord.
Mais en fait, c'est plein de termes qui sont utilisés dans le milieu du livre pour décrire un petit peu de nouveaux métiers, parce que justement, ce sont de nouveaux métiers et on ne sait pas trop comment les définir. Donc, un chroniqueur, par exemple, moi, quand je dis chroniqueuse, maintenant, pour moi, c'est un chroniqueur télé ou un chroniqueur radio, tu vois.
D'accord.
Donc ça, en fait, ça a plusieurs sens.
Et oui.
Mais effectivement, c'est comme ça qu'on appelait avant les blogueurs. C'était un petit peu le terme fourre-tout pour mettre les blogueurs, les youtubeurs, tous les créateurs de contenu finalement dans sous une étiquette un petit peu.
Oui, et puis c'est aussi cette époque où moi alors autant j'ai toujours été un petit peu geek, internet ça va, mais je me rends compte que tout ce qui était réseau social par contre je passais totalement à côté, et notamment il y avait le phénomène des j'en parle au passé, c'est toujours le cas. Les booktubeurs, rien que le terme booktubeur, au début, je me suis dit, mais c'est quoi?
Ça, c'est la case. C'est la case dont on a du mal à sortir, mais qu'on aime bien quand même, tu vois. C'est le cocon agréable. Mais oui, les booktubeurs, en fait, c'est finalement, c'est le terme qui voulait dire book, donc pour livre, bien sûr, et tubeur pour YouTube. C'est en fait les créateurs de contenu qui font des contenus littéraires sur YouTube. Mais par exemple, c'est très... Et tu vois, vraiment, cette manière de donner un terme à tous les métiers ou tous les créateurs sur Internet, finalement, dans le livre, c'est encore plus présent que dans les autres... Oh, j'ai du mal avec mes mots, je suis désolée, j'ai vraiment le cerveau en espagnol.
Non, mais franchement, tu es limpide. Hein,
ça va, vous me comprenez. Mais par exemple, booktuber, il y a les youtubeurs et les booktubeurs, un peu.
C'est comme, j'ai découvert récemment, les bookstagrammeurs, si je ne me trompe pas, si j'écorche pas la chose. C'est la même version, c'est avec Instagram, mais ceux qui se sont spécialisés vraiment dans le contenu littéraire.
Exactement. Et là, par exemple, moi, je suis sur Twitch maintenant, et je me bats pour qu'on ne me mette pas dans la catégorie bookstreameuse, tu vois.
Oui, justement, c'est ça la question que j'allais justement te poser, parce que comme toi-même, tu dis que tu as commencé par parler exclusivement de livres avant de t'autoriser à parler de toutes tes passions, ma question c'était, c'est quoi toutes tes passions?
Oh là là, mais il y en a beaucoup trop. Non, mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai plein de passions dans ma vie, mais si je devais en citer quelques-unes qui sont très présentes sur mes réseaux actuellement, je dirais les chiens, évidemment.
Les chiens, d'accord.
Le tricot, le dessin et les jeux vidéo.
Oh, c'est bien, on va pouvoir parler de choses là.
Il y a pas mal de trucs. Mais j'aime bien en fait toucher un petit peu à plein de choses. J'aime bien apprendre en fait. Donc du coup, dès que je trouve que je m'en sors à peu près bien dans une catégorie ou dans un truc, paf, je switch et puis j'apprends autre chose.
Et tu es autodidacte?
Ouais.
C'est ouais, ça ouais. Aussi, hein, c'est que voilà, par toi-même tu apprends, puis après tu partages. Moi j'avais assisté comme ça un de tes Twitch sur le tricot. Alors moi-même j'étais là. Et moi-même je ne tricote pas, ce qui est une honte hein, quand on a une écharpe comme avatar et comme mascotte.
J'avoue, t'écris enfin.
Eh oui, désolé, mais voilà.
Il va falloir t'y mettre.
Mais apparemment, nous avons l'atelier de la reine là sur le chat, hein, le tricot, alors que je vous écoute en tricotant.
Ah voilà, tu vois, ça c'est une vraie.
Voilà, nous avons des tricoteurs, des tricoteuses sur le chat, c'est bien.
Évidemment.
Voilà,
évidemment.
Donc je les personnes qui ont cette passion là aussi, je vous invite à suivre Émilie sur.
D'ailleurs, si jamais ça te tente, je vais probablement faire incessamment sous peu une retraite créative dans des tiny houses pour apprendre aux gens à faire du tricot.
Alors c'est bien, parce que là tu parles de retraite créative et j'allais te poser aussi la question de la retraite créative. Alors en fait c'est parce que justement en faisant ma petite enquête, je me suis dit tiens quand même avant de recevoir Émilie, je vais voir un petit peu son actualité la plus récente, et je suis tombée sur ta vidéo retraite créative, je me suis dit mais tiens qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'elle a fait, en quoi ça consiste?
Et c'est le paradis. En gros, une retraite créative. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est le petit instant pub, mais parce que ça mérite. Samantha Bailey, qui est autrice et ex-présidente de la Ligue des auteurs professionnels, a créé avec son compagnon Antoine un lieu féerique situé dans la forêt d'Orléans, dans lequel en fait il y a des tiny houses totalement écolo et bien pensées pour qu'elle soit écolo et belle. Et en fait, régulièrement dans l'année, ils proposent des retraites créatives avec un professeur, en fait, un enseignant qui vient et qui, pendant une semaine, apprend à 8 personnes qui logent chacun ou chacune dans une tiny à faire une activité. Et moi, je suis partie du coup faire une retraite créative avec Marie Spénal, qui est une illustratrice que j'adore, et qui nous a appris à faire, à tenir des carnets de croquis pendant une semaine dans la forêt. C'était juste trop bien.
Ça devait être une belle expérience.
Ah ouais, c'était génial.
Et du coup, tu as été inspirée, tu as dessiné. Alors, tu dessinais ce que tu avais sous les yeux, ce que tu avais dans la tête, les deux ?
Plus ce que j'avais sous les yeux.
Mais c'est un bon exercice, hein ?
Ouais, en fait, l'idée, parce que dessiner ce qu'on a dans la tête, c'est l'étape au-dessus encore, je trouve, personnellement. C'est plus compliqué de dessiner quelque chose de tête que de dessiner quelque chose que tu vois. L'observation, c'est difficile, mais c'est plus simple que la création. Et donc, on a commencé par ça, mais en fait, moi, j'apprends le dessin depuis 2-3 ans maintenant. Et mon objectif, ce serait de réussir à faire des fanarts de mes lectures et vraiment pousser ça un peu plus loin. Là, je pense que tu l'as vu puisque tu l'avais partagé, mais par exemple, je fais des photos illustrations, j'appelle ça comme ça, parce que c'est des photos que je vais retoucher. T'aimes bien ?
Ah, j'adore le principe.
C'est vrai.
C'est une photo et finalement, tu mets un élément graphique dessus. Qui fait que ça transforme complètement la perspective. T'as joué avec le miroir, l'écharpe, quand t'as fait des... Là, c'est beaucoup sur Instagram que j'en ai vu passer.
Oui, sur Instagram, parce que c'est, en fait, c'est le réseau qui s'y prête, tu vois. C'est de la photo Insta, donc du coup,
c'est plus simple.
Mais
c'est extrêmement sympa. J'ai vu des artistes aussi faire ça, à partir d'une photo, intégrer un élément graphique dedans. Et le principe est génial.
C'est ça. Et en fait, ça permet de recréer l'univers, ou en tout cas, ta perception de l'univers dans une image, quoi. Et comme Instagram, c'est quand même un réseau social où c'est beaucoup de consommation, tu vois, on scrolle. Il faut qu'avec une photo, tu arrives à transmettre un message le plus rapidement possible parce que la plupart des gens qui sont sur Instagram ne lisent pas forcément les descriptions. Donc, il faut que tu les appâtes un petit peu déjà avec l'image. Et moi, je trouve... Moi, ça mêle tout ce que j'aime, quoi. La photo, vidéo, plus le dessin.
Oui.
Voilà.
Donc, c'est aussi intéressant, là, ce que tu nous dis par rapport à, justement, ce côté scroller d'Instagram. Mm-hmm. Alors, moi, c'était peut-être pas sur Instagram, mais je m'étais rendu compte sur d'autres réseaux sociaux. Je crois que c'était sur Facebook, ça m'avait frappé. Ou parfois, je mettais un message avec beaucoup de contenu. Et à peine c'était diffusé, dans la seconde qui suivait, il y avait déjà des likes, mais c'était vraiment des likes de principe, j'ai envie de dire, parce que je me dis, mais les gens n'ont pas lu, c'est pas possible.
Ils lisent pas.
Donc, alors je me dis, bon, c'est sympathique hein, de liker pour le principe, mais je dis, peut-être lisez jusqu'au bout, parce que s'il faut, je vais dire un truc, et que vous n'allez pas cautionner, on ne sait jamais. Hein.
Je vais mettre c'est vraiment pas... C'est plus visuel que...
Je mets le lien de ton Instagram là sur le fil du chat.
Oh bah c'est gentil.
Ah bah tant qu'à faire puisqu'on en parle. Comme ça vous pourrez voir dessus les fameuses les photomontages de Émilie. Ils sont bien bien sympas.
Merci.
Voilà. Et donc effectivement là c'est une pratique. Là tu te rends compte que l'image fait beaucoup en fait dans la communication, voire plus que le texte.
Ah oui. Ah mais clairement, et même de manière totalement personnelle, moi je suis beaucoup plus à l'aise à l'image qu'à l'écrit par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire des vidéos et d'abandonner mon blog à la base. Parce qu'à la base j'avais un blog littéraire, et très très vite je me suis lancée sur YouTube parce que c'est beaucoup plus simple à mes yeux de transmettre ce que j'ai envie de transmettre à l'oral qu'à l'écrit. J'ai pas mal de difficultés vraiment à l'écrit et c'est un confort en fait de le faire à l'oral. Alors j'étais pas forcément très à l'aise à l'oral non plus au début. Bon là, vous allez vous dire que je le suis toujours pas.
Bah non, bah attends, au contraire, tu as une aisance pour ça. Alors peut-être que l'aisance est venue avec la pratique. Moi je t'ai toujours connue très à l'aise à l'oral, mais je n'étais pas si statée tout au début.
Au début c'était compliqué. Hein. C'était pas facile du tout de trouver mon ton, en fait de réussir à être soi-même.
Moi, ce qui m'a frappé, justement, quand j'ai commencé à regarder ta vidéo sur la retraite créative, il y a vraiment la mise en scène. À un moment donné, on te voit te réveiller le matin et tout. Et je me dis, mais tiens, on dirait vraiment un film, en fait. C'est filmé comme si on était en train de regarder une œuvre de fiction avant de te dire, mais non, attention, c'est Émilie qui est en train de se filmer. Tu faisais ainsi parfois des petits jeux aussi avec ta caméra où on te voit en train de dessiner, puis tu dédoubles l'image et puis au bout d'un moment l'écran est rempli de mini vignettes de toi qui font toujours le même mouvement et parfois tu fais des effets comme ça. Et je me dis mais tout ça c'est quelque chose que t'as dû apprendre avec la pratique.
Alors, en vrai, les montages là, ce montage là en tout cas et les derniers, c'est plus moi qui les fais. Maintenant, je fais appel à une monteuse.
Ah, parce que, bah c'est intéressant ça. D'accord, ok.
Ouais, ouais.
D'accord.
Mais à la base, effectivement, tous les montages, c'était moi qui les faisais. Et par exemple, quand je travaillais pour des médias autres, tu vois, par exemple, j'avais travaillé pour France Télévisions, c'est moi qui faisais tout. C'est que depuis très récemment que je délègue enfin le montage à quelqu'un. Parce qu'en fait, j'avais abandonné YouTube parce que j'avais plus le temps du tout de oui. faire des vidéos, vu que j'avais d'autres projets et que mes autres projets me motivaient beaucoup plus et me passionnaient beaucoup plus que de faire du montage. Parce que je déteste le montage maintenant. Mais effectivement, oui, le montage, c'est un métier. Hein.
C'est un métier. C'est non seulement un métier, mais alors là, bon, je suppose, enfin, le raisonnement que je tiens, c'est pour tout ce qui est film et série, mais c'est aussi tout ce qui va raconter l'histoire.
Hein. Ah oui.
Tout se décide au montage finalement. Hein.
C'est ça.
On n'aura pas du tout le même message en fonction du montage.
Exactement. C'est-à-dire que un monteur, pour moi, c'est un artiste, et tous les monteurs ne sont pas pareils, n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas le même montage d'ailleurs. Enfin, moi, je sais que les gens me disent souvent, tiens, celui-là, je suis pas sûre que ce soit toi qui l'ai monté, parce qu'on a tous sa patte un petit peu, tu vois, c'est un peu une patte artistique qu'on a dans le montage.
Oui, tout à fait, ça je comprends. Ben, ce que tu choisis de montrer, ce que tu choisis de ne pas montrer, au contraire.
C'est ça, et la comment façon tu dont fais, tu le dynamisme.
Et dans quel ordre, parce que je suppose aussi que ça y a un ordre de narration.
Exactement.
Et il y a une jolie phrase, hein, je relais là de Obo et Domo sur le chat. Certains disent en communication que l'image est un texte et que les lettres sont des images.
Ouais.
C'est beau,
c'est
hein.
C'est pas faux. Ouais.
Oui, d'ailleurs, je me trompe pas, mais tu fais aussi de la calligraphie.
Oui.
Voilà, j'y pense justement en lisant le message que toi-même tu pratiques là, tu fais des lettres artistiques là. Mais ça, on revoit du coup là le lien entre la littérature et l'image.
Ouais, ouais, ouais. Bah, pour moi, c'est totalement relié. Vraiment. Bah, la littérature, en fait, même la lecture chez moi passe par l'image. C'est pour ça que je lis très doucement aussi. C'est parce que je mets très longtemps à imaginer ce que je lis. Tu vois ce que je dis ?
D'accord. Enfin,
ce que je veux dire, c'est un film dans ma tête qui se fait quand je suis en train de lire. Donc, tout passe par l'image, en fait.
Et c'est intéressant. Oui, donc, les lectures, voilà, font naître des images.
Exactement.
Intérieurement. Alors ça, j'ai une petite pensée. J'ai une amie qui est aussi autrice et qui elle a cette particularité, c'est qu'elle elle n'imagine pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que vraiment elle ne peut pas. Elle n'arrive pas à avoir des images intérieures. Donc quand elle écrit ou quand elle lit, visuellement elle n'a rien intérieurement. Mais ce qui n'empêche pas qu'elle prenne beaucoup de plaisir à... Elle comprend tout à fait les textes qu'elle lit et à écrire très bien. Mais et moi, ça m'avait frappé parce que justement, moi, c'est tellement le contraire. C'est que parfois, j'ai tellement des images qui sont fortes dans la tête que ça se superpose. Je ne sais pas si ça fonctionne aussi comme ça pour toi. Mais quand je suis en mode rêverie, ce qui est, on va dire, le cas les 9 dixièmes de mon temps... j'ai des images qui superposent tout le temps à la réalité. Les images que j'ai intérieurement sont plus fortes que ce que j'ai vraiment sous les yeux. Et parfois, je dois m'obliger à revenir, à me dire, attends, reviens au moment présent, reviens là où tu es maintenant, parce que le nombre de fois où je me surprends à basculer intérieurement.
Eh ben, je crois qu'on a le même. Je sais pas si on peut dire que c'est un vice, parce que pour moi, c'est ce que j'aime, en fait, justement, c'est ce qui fait que j'aime lire. Mais effectivement. La lecture permet permet à l'imaginaire de prendre sa place, en fait. Et je pense que les auteurs ont un grand, enfin peut-être que je me trompe, tu vois, mais ont la capacité de se projeter, même si c'est pas forcément visuel, parce que je sais qu'il y a plein de gens. Par exemple, c'est pareil pour le dessin. T'as des gens, tu leur dis de dessiner une pomme, t'en as qui vont réussir à te dessiner la pomme, tu vois, t'as des gens qui vont juste te faire un rond. Et puis t'as des gens par contre qui vont te faire une pomme, t'as l'impression que c'est une photo. Et en fait, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, entre guillemets, à se représenter les choses. Mais ça veut pas dire que ceux qui font le rond vivent moins bien les choses que ceux qui font la photo à la fin, tu vois.
Oui, voilà, c'est tout ok, hein. Il n'y a pas de... Voilà, chacun fonctionne à la façon dont il fonctionne, et c'est parfait. Et en fait, c'est même intéressant d'avoir comme ça une pluralité de points de vue différents. Sur une même réalité. Alors, il y a
de la fantaisie.
Oui, voilà, qui nous dit le fait de ne pas pouvoir du tout se représenter une image mentale, la fantaisie. Eh ben le... Non, oui, la fantaisie. Alors ça s'écrit pas comme de la fantaisie littéraire, je précise, ça c'est avec un th, mais c'est intéressant.
Ouais, j'avais vu une étude là-dessus, mais ouais, je la retrouve.
Ah ben il y a aussi la, il y a aussi la synesthésie. Alors là, je m'éloigne un petit peu, mais pas tant que ça. C'est le fait d'associer des sens différents. Et ça, alors moi, je ne l'ai pas, mais je connais aussi des personnes, une autre amie autrice, qui associe. Alors c'est soit des lettres, soit des chiffres, à des couleurs ou à des odeurs.
Ah ouais.
Et c'est automatique. Je veux dire, c'est, on lui dit n'importe quel chiffre ou n'importe quelle lettre pour elle. Ça a une couleur. J'en avais aussi discuté avec Camille Rusier, hein, tu sais, qui t'avait invité pour faire des illustrations, moi, qui là aujourd'hui n'était pas disponible. Mais elle aussi, elle m'a dit qu'elle associait, on lui disait une lettre, spontanément, elle avait une couleur qui lui venait à l'esprit. Mm-hmm. La lettre avait telle couleur, c'était une évidence pour elle.
C'est fou.
Et ça lui a fait un choc le jour où elle a compris que ça n'était pas le cas pour tout le monde.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Mais c'est beau, ouais. C'est beau, hein.
Ouais,
c'est,
ouais.
Donc on dérive, mais pas tant que ça.
On reste dans le thème quand même.
Voilà, c'est toujours. Mais oui, et aussi tu mentionnais là un petit peu en avant, tu parlais justement de ton expérience d'émission sur France 2. Et mm-hmm. alors ça, c'est aussi quelque chose. Si jamais tu souhaites en parler un tout petit peu, juste pour dire en quoi ça a consisté, comment ça s'est fait, voilà, cette expérience-là, c'est intéressant.
Alors, comment ça s'est fait? Alors, il faut savoir, je recontextualise un petit peu. À la base, moi, j'ai commencé BookTube quand j'étais en études. Je faisais des études, une LLCE, j'ai fait une LLCE en espagnol. Donc, une licence de langue littérature, utilisation étrangère en espagnol.
D'accord.
Et à la fin de mes études, j'ai plus voulu continuer. J'avais pas du tout envie de faire professeur, mais j'avais envie de faire libraire. Je suis partie et j'ai fait libraire. Donc j'étais libraire. Donc j'étais libraire et booktubeuse. Et j'ai quitté mon travail de libraire en me disant que je me laissais un an pour voir ce que ça donnait BookTube. Et en fait, ça fait plus de 5 ans et je n'y suis jamais retournée. Parce que pile au moment où j'ai quitté la librairie, j'ai dû quitter en mars, le 12 mars. Et ben, au mois d'avril, j'ai été contactée pour écrire un livre. Et au mois de juin, j'ai été contactée pour travailler pour France TV.
Il y a tout qui s'est enchaîné.
Il y a tout qui s'est enchaîné, ouais. Mais puis j'ai fait un burn-out.
Et c'est vrai,
t'as ouais. J'ai fait un burn-out suite à ça.
Bah, c'est, faut dire que ça a dû être extrêmement intense, hein, parce que là. Voilà, tu sens à un rythme incessant, en fait.
C'est ça. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte que les métiers de les créateurs de contenu, finalement, travaillent tout le temps. Et en l'occurrence, enfin, moi, j'en ai trop fait d'un coup. Mais du coup, j'ai travaillé pour France TV parce que comment ça s'est passé? C'est qu'ils m'ont contacté pour faire une interview sur le sujet des booktubeurs.
D'accord.
Et en voyant l'interview, la productrice a beaucoup aimé mon profil et elle m'a contacté. Elle voulait me rencontrer pour me demander si j'étais intéressée pour potentiellement travailler pour eux. Et donc, du coup, je suis devenue chroniqueuse pour l'émission C'est au programme, qui était à l'époque sur France 2, à partir de 10h le matin. C'était après Télématin.
Ça devait être une expérience.
Ouais, c'était une sacrée expérience parce que c'est... Enfin, en fait, le travail que je fais actuellement, c'est un travail qui regroupe plein de casquettes. C'est-à-dire que je vais faire chroniqueuse, mais réalisatrice aussi. Je m'occupe de la lumière, du son, de l'image. J'étais monteuse. Tu vois, c'est vraiment plein de casquettes. Mais pourtant, malgré le fait que ce soit plein de casquettes, c'était encore, il n'y a pas si longtemps que ça, pas assez sérieux pour beaucoup. Et il y avait un souci de légitimité, entre guillemets, parce que pour certains, on était des enfants qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
D'accord. C'est la question de la professionnalisation. Finalement.
Exactement. La question de la professionnalisation était très, très forte à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à travailler pour la télé, quand la télé est venue me chercher, j'ai tout de suite senti la différence. Parce que là, c'est comme si d'un coup, j'avais été... pas acceptée, mais ça a donné une légitimité à mon travail pour beaucoup.
Oui.
Et donc, c'était une expérience qui
alors,
était
intéressante. Alors, dans l'absolu, ça n'aurait pas dû, mais c'est comme ça que
ça fonctionne.
Ça
n'aurait pas dû. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. C'est-à-dire que dans l'absolu, quand je me rendais sur le plateau pour visiter le plateau et que je croisais des collègues et qui me posaient des questions pour savoir comment je m'y prenais pour faire les vidéos, ils étaient tous en mode « Attends, mais deux secondes, c'est toi qui as tout fait ?» Parce que pour eux, c'était juste pas possible, en fait. Pour,
et chacun pour son une... métier, chacun sa spécialisation.
C'est ça. C'est-à-dire que sur une émission de télévision, souvent, bah, t'as l'animateur, et puis derrière, bah, t'as les chroniqueurs, et puis t'as aussi ceux qui font le script de ce que doit dire l'animateur de temps en temps, tu vois. Et t'as ceux qui gèrent la lumière, ceux qui gèrent le son, ceux qui gèrent l'image, ceux qui font la production, ceux qui font le contenu, en fait. Et en fait, ce qu'ils avaient du mal à comprendre comment une seule personne pouvait faire.
Et là, projet, ils ont rencontré Émilie.
Voilà. Mais du coup, c'était un petit peu. Enfin, c'était rigolo parce que.
Bon, moi, j'avais pas de décalage.
C'est ça. C'est-à-dire que nous, en tant que créateurs de contenu, on sait qu'on a. On sait qu'on a la capacité de faire beaucoup de choses et qu'on peut être professionnel dans ce qu'on fait. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et de passer par la télé, mine de rien, qui est un média traditionnel validé par la société, tu vois, ça a donné vraiment de la légitimité à mon contenu. Et même si ça n'avait pas lieu d'être.
Tu n'as pas ressenti de trac ?
Alors, au début, c'était compliqué. Hein. Parce que je devais faire des vidéos de 2 minutes pour présenter 2 livres. Il fallait que ce soit 2 livres qui correspondent au public de l'émission. Donc, c'était pas forcément non plus les lectures que moi, j'avais... pour moi tout le temps, donc il fallait aussi penser à ça. Et 2 minutes, c'est 2 minutes à la télé, hein. C'est pas 2 minutes 30.
Mais donc, finalement, plus 2 minutes plus de diffusion, mais pour tout un travail en amont, le temps de te documenter, de faire connaissance avec les livres, déterminer comment tu allais en parler.
C'est ça, il fallait lire les livres, il fallait sélectionner les livres, donc ça veut dire qu'il y avait 2 livres présentés, il y avait deux pastilles par mois, donc ça faisait 4 livres présentés à la télé, mais en fait, dans l'ombre. T'en lis 6 des bouquins pour en trouver 4, tu vois. Oui. T'en lis 6, voire plus. Et donc, c'est le travail qu'il y a derrière était assez, assez conséquent. Et du coup, une émission qui, normalement, aurait dû être un plus à mes réseaux sociaux est devenue mon travail à temps plein, presque. Parce que j'avais plus le temps pour faire mon propre contenu. Donc, j'ai disparu de YouTube à ce moment-là parce que je pouvais pas tout faire, en fait. Et puis, ça n'avait aucun sens de refaire la même... Parce qu'en fait, le format télé ne correspond pas du tout au format YouTube. Je ne pouvais pas... J'essayais de poster mes vidéos France TV sur ma chaîne YouTube, mais ça n'intéressait personne parce que le format n'était pas le bon. Donc, ça aurait voulu... Enfin, j'aurais dû, si j'avais pu, faire une autre vidéo en présentant les mêmes livres, mais pour YouTube. Et ça, j'avais pas le temps.
Eh oui. Et non, là, ça t'oblige à faire des choix.
C'est ça. Donc, le choix, c'était, en l'occurrence, ceux qui me mettaient les pattes dans l'assiette. Donc, c'était la télé. Et en même temps, c'était pas un choix si compliqué parce que quand t'es dans le truc, tu te rends pas compte. Et moi, j'ai adoré cette expérience, hein, vraiment. Enfin, j'ai tellement adoré cette expérience que ça m'a fait changer ma vision de ce que je voulais pour la suite, quoi.
Et ça fait vraiment partie de ton parcours.
Ah vraiment, vraiment. Et maintenant, ça a modifié. Enfin, je sais pas comment dire, mais les attentes que j'ai dans ma vie maintenant, je les dois aussi en grande partie à cette expérience-là, parce que j'ai adoré voir les coulisses, j'ai adoré faire ça. Et en vrai, moi, si dans 10 ans on me dit, tu veux pas être animatrice, je dis pas non, quoi.
Ouais, c'est intéressant. C'est bien de voir la façon dont les deux sphères, finalement, se sont succédées. Et puis, finalement, c'est pas si... t'es passé de l'une à l'autre.
C'est ça.
Et ça a influencé ton... Après, le parcours par la suite. Alors, sur le chat, il y a Chané qui dit « Pourtant, la télé aujourd'hui est très rarement vue par les nouvelles générations. Surtout pour la littérature, je suis assez étonnée qu'encore aujourd'hui, il faille passer par la télé pour être reconnue, encore plus depuis l'explosion d'Instagram et de TikTok. »
Ah, bah,
donc
ça,
la question de la légitimité,
le monde des livres,
c'est apparemment c'est pas que en tant que
bon, ceci dit, ça a quand même un peu changé, hein. Moi, je te parle de ça, c'était il y a 3-4 ans. En fait, il faut savoir que dans l'univers du livre sur YouTube et en France, je suis la première à en avoir enfin à en vivre à 100%.
D'accord.
Et j'étais la première à me professionnaliser dans le milieu. Donc en gros, si tu veux.
Bravo.
Bon, bah, je sais pas s'il faut dire bravo ou.
Non mais. Oui,
ou bonne
non.
chance. mais en fait, si tu veux, là, quand je parle de légitimité du travail de booktubeuse, c'est parce que à l'époque, c'était pas du tout vu comme quelque chose de professionnel en fait ce qu'on faisait. Et le monde du livre, même si maintenant les jeunes ne regardent plus la télé, même si l'impact de TikTok, d'Instagram et des réseaux sociaux est important, et même si enfin les maisons d'édition vraiment comprennent, et ils sont d'ailleurs très présents sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien, à l'époque, fallait expliquer à tonton Jean qui était président de telle maison d'édition que, désolé, maintenant c'est plus sur la télé que ça se passe et sur les journaux, comme c'était le cas avant, mais c'est là-dessus, tu vois. Et finalement, ils ne connaissaient que ça. C'était tellement nouveau que pour eux, ça n'avait pas de valeur, de réelle valeur. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec tous les créateurs de contenu, quand ils sont arrivés pour la première fois sur les plateaux télé, il y a eu une espèce de forme de mépris un petit peu entre chroniqueurs, journalistes et créateurs de contenu. Parce que c'était de l'incompréhension, ça sortait de nulle part pour eux, c'était quelque chose de nouveau.
Et oui.
Et on est comme ça en fait. La légitimité, on la donne à ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît pas, ça nous fait peur.
Et là, je suis en train de voir sur le chat, je pense que c'est un peu en résonance par rapport à ton propre parcours, des personnes qui font l'expérience du syndrome de l'imposteur, hein, le fameux syndrome dont on parle beaucoup. Je vois sur le chat que ça réveille. Il y a des personnes qui ont fait cette expérience de ressentir ce syndrome de l'imposteur et qui disent qu'ils sont un peu en lutte aussi contre ça pour dire j'ai pas envie de me laisser arrêter par ça et de me lancer sans que se pose la question de la légitimité à faire ou pas quelque chose. Donc tu es inspirante.
Mais ça, tout le monde l'a, le syndrome de l'imposteur. Hein. Mais c'est une façade en fait qu'on montre. C'est-à-dire que moi, quand je vais parler en public, je vais faire croire que je suis super sûre de moi ou quoi. Mais par exemple, les pips qui ont l'habitude de me voir sur Twitch, où je suis beaucoup plus naturelle, parce que je me sens plus en confiance, ont très bien conscience que, en fait, je suis la meuf qui doute le plus du monde, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je prends pas une seule décision sans avoir demandé à tout mon entourage ce qu'il en pensait, il y avait ça aussi à l'époque, c'est qu'en fait, on disait tout le temps que les créateurs de contenu et les youtubeurs étaient super, comment on dit quand on est nombriliste et qu'on aime se regarder et s'entendre?
Narcissique,
voilà. Et en fait, mais moi je connais pas mal de créateurs de contenu maintenant, et à l'époque, en fait c'est tout l'inverse. Souvent c'est des gens qui étaient, en tout cas à l'époque, très timides, qui avaient du mal à s'exprimer. Moi par exemple, si je me suis lancée en vidéo, c'est aussi pour essayer d'apprendre à mieux m'exprimer à l'oral. Tu me vois comme ça, t'as l'impression que je suis méga égocentrique. La vérité c'est que tu me mets au milieu d'une foule, je panique, je fais des crises d'angoisse, je suis super timide. Et je cache cette timidité par beaucoup de bruit. Et le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, peu importe ce qu'on fait. Et justement, le plus gros travail, il est là-dessus, en fait. Il est de vaincre ce syndrome de l'imposteur et de se dire que si on écoute ce syndrome de l'imposteur, on ne fait rien dans la vie. Est-ce qu'on a envie de rien faire? Ça, c'est toujours la question, quoi.
Ben c'est aussi, j'ai l'impression, à t'écouter, à te voir faire... que donc non seulement toi tu es animé par des passions, mais aussi par un goût de transmettre ces passions. On sent que c'est vraiment quelque chose que t'as très envie de partager et de transmettre ça.
Ouais, en fait, moi c'est pour ça que je me suis lancée à la base. Hein. C'était parce que autour de moi il y avait personne qui lisait, donc je pouvais pas parler de mes lectures avec les gens. Et je trouve ça extrêmement frustrant en fait de ne pas pouvoir parler de ce qu'on aime avec les gens. Donc du coup c'est à la base c'est ça et c'est toujours ça. Et maintenant, j'ai envie de partager encore plus avec plus de gens et pas forcément que des gens qui auraient les mêmes passions que moi. L'idée, c'est de propager le bon, la joie et la lecture et tout ce qu'on aime, quoi.
Et qu'est-ce que toi, tu penses du terme influenceur, influenceuse, que jusqu'à tout récemment, je ne connaissais pas. Hein.
C'est un terme... Tu connaissais pas, c'est vrai?
Alors, c'est, en fait, c'est assez tardivement que j'en ai entendu parler. Je me suis dit, au début, je pense que c'est vraiment le signe que je suis pas très connectée. Hein. Les réseaux sociaux, je dois passer à côté de certaines choses. Je me demande si à un moment, c'est à un moment donné, on m'avait pas demandé ou on m'avait pas dit, oui, en quelque sorte, vous êtes influenceuse. Je ne sais plus avec qui je parlais. Vraiment, je me suis dit, d'où il sort ce terme, influenceuse, qu'est-ce que j'influence, pourquoi? Ça m'avait questionnée. Et après, maintenant, depuis, ça va. J'ai compris un petit peu plus en quoi ça consistait, mais je serais vraiment curieuse de savoir, toi, la façon dont tu le ressens, ce terme-là.
Alors, le terme influenceur, moi, c'est un petit peu le terme générique pour tout, pour définir nos métiers. Bah, je pense qu'on l'a vu depuis le début, c'est pas un terme que j'utilise vraiment. Moi, j'aime vraiment le terme créateur de contenu. Exactement. Parce que, effectivement, on est des influenceurs dans le sens où on va influencer les gens, peu importe ce qu'on présente. Moi, l'idée de partager, c'est aussi de leur donner envie de lire. Donc, dans un sens, oui, j'influence les gens. Mais je trouve qu'il y a un côté un petit peu... je sais pas, j'aime pas trop ce terme. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça donne un truc un peu genre manipulation, alors que...
Ça laisse entendre que les gens sont influençables.
Mais en même temps, c'est vrai. Parce que moi-même, je me laisse totalement influencer. Par exemple, mes amis sont des influenceurs qui m'influencent. Tu vois? Mes proches sont des influenceurs qui m'influencent. Mais il y a un côté un peu péjoratif dans ce terme que j'aime pas trop. Mais plus ça va, plus je l'accepte parce que
ça parle à tout le monde. Et fait partie du paysage.
Exactement. Et quand tu dis influenceur, on voit tout de suite ce que tu fais.
Nous allons parler de émulation.
Voilà. le terme influenceur, souvent, les créateurs de contenu, on peut avoir un petit mouvement de recul et tout avec ça, mais plus ça va, plus on se dit, écoute.
Ça fait partie des termes qui finissent par être... ils font partie du paysage médiatique.
Exactement.
Mais j'ai constaté que toi, effectivement, dans tes bios sur tes réseaux sociaux, tu n'employais pas ce terme.
Bah non, parce que je trouve que créateur de contenu, ça représente plus ce que je fais. Parce que je ne me contente pas de faire que des vidéos. Et surtout, depuis quelques temps, maintenant, je vis donc de la création de contenu que je fais pour mes réseaux, mais aussi pour d'autres clients.
Oui.
Donc, par exemple, je faisais la création de contenu que je faisais pour France Télévisions. C'était pas en tant qu'influenceuse que je la faisais, c'était en tant que chroniqueuse. Tu vois? Et je fais aussi je fais de la gestion de live pour des entreprises ou des associations ou des groupes. C'est de la création de contenu et pourtant, c'est pas de l'influence. Parce que je suis dans l'ombre, on me voit pas.
Donc, effectivement, c'est là que c'est bien de faire la distinction. L'un n'est pas forcément l'autre.
Ça veut tout dire, tu peux tout mettre dedans. Je fais de la photo, de la vidéo. Il y a de tout. Tandis que, finalement, être influenceur, tout le monde comprend ce que c'est. Mais ça cache une grosse partie de mon travail. Parce qu'au final, effectivement, je fais de l'influence. Mais une grande majorité de ce que je fais en influence, c'est bénévole. Et c'est ce que je vais faire en création de contenu qui, par contre, va me permettre de manger à la fin du mois et pourquoi pas de m'acheter un appartement, tu vois.
Oui, puisqu'on en parle.
Voilà.
Je me permets de te relayer une question de Lali. Ce qui me fait le plus flipper dans le fait de me lancer dans le monde flippant d'Internet, c'est de voir les trolls haineux, les commentaires négatifs, etc. J'ai peur de me faire bouffer en partant du principe que des gens me liraient. Comment t'as géré ça au début?
Alors ça, c'est une question qui est super importante. Moi, j'ai fait pas mal de masterclass dans des collèges, lycées et dans des médiathèques où justement, on nous demandait d'apprendre aux jeunes à faire des vidéos BookTube. Et ça, c'est genre la partie 2 que je présentais. Effectivement, c'est super important d'y penser. Internet, c'est pas un monde méga simple. Et quand on se lance et qu'on s'expose, on prend des risques. Voilà, on prend des risques et on n'a pas tous les épaules pour supporter ça. Et moi, j'ai un caractère plutôt fort de base. Je pense que ça s'entend un peu. je me suis jamais vraiment fait trop embêter. mais c'est arrivé. Et c'est arrivé que je subisse du harcèlement. Et c'est arrivé que j'ai eu envie d'arrêter. Et encore aujourd'hui, je fais pas mon contenu aussi facilement qu'avant. Parce que j'ai peur des conséquences, j'ai peur de déraper, j'ai peur de dire des bêtises, de blesser des gens. Et le troll est très présent. Donc ça dépend du troll. Le petit trollito sur Twitter, par exemple, Voilà, il y a les trolitos. Moi, les trolitos, pour moi, vraiment, dans ma tête, c'est des enfants de 12 ans qui, quand les parents regardent pas, s'amusent à se prendre pour des grands monsieur avec des biscottos ou des grandes dames avec des biscottos et qui veulent juste embêter un petit peu à droite à gauche pour qu'on les remarque. Ils me font rien du tout. Ils ne font rien du tout, mais je sais que ça peut faire du mal. Et il y a eu le cyberharcèlement, c'est quelque chose de très important. Et il ne faut pas l'oublier, et tout le monde n'en est pas capable. Et donc, il faut bien réfléchir quand on crée du contenu, mais également quand on réagit au contenu. Oui, parce qu'en tant que créatrice de contenu, et moi, j'avais eu une remarque avec ça, c'est qu'en tant que créatrice de contenu, je peux être la harceleuse, ou en tout cas, le feu qui va venir foutre... L'allumette qui va venir foutre le feu sur un tas qui est déjà bien constitué. Et sur Internet, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça a un impact plus ou moins conséquent et on n'en a pas forcément conscience. Mais moi, je le vois autour de moi. J'ai plein d'amis qui subissent du harcèlement. J'en ai subi moi-même. Ça m'a traumatisée. Il y a des trucs maintenant, j'ai peur en fait. Donc, je viendrai jamais vous dire, allez-y, c'est chill, tout le monde est super bienveillant. Parce que c'est pas vrai. On sait pas, en fait, qui c'est qui regarde, qui c'est qui écoute, qui c'est... On sait pas, et il faut faire attention. Mais au début, j'en avais pas forcément conscience. Maintenant, quand les gens veulent se lancer, je leur dis, faites attention. Et surtout, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le détour? Est-ce que vous en serez capable? Est-ce que vous serez capable de supporter? Et sinon, en fait, juste protégez-vous, quoi.
Alors, là, je ne sais pas si c'est de la même nature... Mais moi, je sais que justement, une de mes grandes peurs initiales, c'était le jugement des autres, le regard des autres. C'est ce qui me faisait très peur et une des raisons pour lesquelles, à la base, je ne voulais pas être éditée. Quelque chose qui, finalement, j'ai apprivoisé au fur et à mesure que les tomes sont sortis de la passe miroir et où je me suis dit, oh, bah, tiens, non, là, je vois que la communauté autour de moi est plutôt bienveillante, ça se passe bien, les gens que je rencontre, bah, ils sont contents et donc... J'avais un peu baissé ma garde, on va dire, par rapport à ça.
Ouais.
Et c'est le fameux tome 4 quand il est sorti que là, il s'est passé un phénomène. Alors, je ne sais pas si on peut parler de troll parce que c'est pas de cet ordre-là. C'est pour ça que je c'était
non,
pas exactement.
C'est pas
la même expérience, je pense, que d'autres peuvent faire. Mais par contre, voilà, des vagues d'émotions brutes, de colère, de tristesse, de détresse. Et de culpabilisation, je n'avais pas du tout vu venir, et c'est arrivé d'un coup sous forme de messages qui sont arrivés un peu par tous mes réseaux sociaux, et même au moment où j'ai coupé les réseaux sociaux pour essayer de me protéger, c'est arrivé par courrier, donc Gallimard me transmet...
Oh là là.
Parce qu'en fait, il transmettait le courrier à Gallimard ne lit pas le courrier, il me le transmet d'office, donc ça me parvenait, je recevais encore des lettres assez culpabilisantes de personnes qui me disaient que je leur avais fait du mal. Alors il y a un mauvais moment à passer, ça c'est sûr, un point que je me suis dit, ok, là je suis en train du coup de faire l'expérience de ce qui me faisait peur à la base. Là je suis en plein dedans, c'est ça exactement dont j'avais peur, c'était au bout d'un moment il y a un truc qui a lâché intérieurement, et je me suis dit, mais en fait c'était bien que je sois confrontée à ça. C'est justement, j'ai cette chance quelque part, c'est de me confronter à ma peur. J'ai cette opportunité de me dire, le truc qui me faisait une des peurs les plus fortes, je m'y confronte maintenant. C'est très douloureux, c'est très souffrant, mais au bout d'un moment, il y a un truc qui a fini par lâcher de mon côté et qui fait que maintenant, c'est comme si j'avais. Il y a quelque chose qui était tombé par rapport à ça. Je dis pas que je suis toujours sensible aux émotions qu'on va me transmettre. Mais il y a quelque chose en moi, c'est comme s'il y avait maintenant une sorte de garde-fou qui faisait, qui arrivait à faire le tri, une sorte de protection qui me fait dire, je remets les choses en perspective, je me dis, quand quelqu'un va exprimer de la colère ou quoi, je vais pas en faire une affaire personnelle parce que je sais qu'en fait c'est pas personnel, c'est la personne qui a un problème finalement vis-à-vis du livre, c'est que la lecture a réveillé quelque chose en elle-même finalement et que c'est entre elle et elle et que ça ne m'appartient pas complètement. Donc
c'est dur, hein.
Ah, c'est pas évident. Il y a des moments, je suis un peu plus fragile, je rechute, hein, à nouveau, je suis en mode.
C'est ça. Et moi, ça a remis pas mal. Enfin, il y a certaines. D'ailleurs, tu sais, une des dernières polémiques que j'avais eues, c'était justement sur ce sujet-là, parce que t'es pas sur Twitter, donc tu l'as probablement pas vu.
Ah non, je suis
mais
pas sur Twitter.
Je pense qu'avant même que tu réagisses, j'avais vu les remarques que les gens faisaient et tout, et j'ai pété un câble sur Twitter en disant que ça ne servait à rien de taguer les auteurs sur les avis négatifs et que d'imposer ses émotions à l'auteur, c'était une forme d'égoïsme folle et contre toute attente. Je ne pensais même pas que ce serait sujet à débat. Il y a eu un énorme débat sur Twitter. J'ai foutu le feu à Twitter pendant une semaine.
Du coup, je suis totalement passée à côté de ça.
T'es totalement passée à côté de ça, mais genre, j'ai foutu le feu. C'est-à-dire qu'il y a eu une déformation totale de mes propos, quoi j'aurais dit qu'il fallait pas donner d'avis négatifs sur Internet, alors que pas du tout, c'était pas ça qui était la question. C'était vraiment le fait d'imposer ses émotions et son ressenti aux auteurs quand ce n'était pas demandé. Pour moi, c'est une forme d'agression.
Alors, en fait, c'est une très bonne question. À partir du moment où on tague quelqu'un, vraiment le fait de le taguer, c'est que la personne, elle a une notification qui fait que son attention va être attirée. Et je me dis, moi, il y a des auteurs qui font le choix d'aller lire des critiques. Voilà.
Mais ils font leur choix.
J'en arrive au bout d'un certain nombre de messages. J'avoue que je au bout d'un moment, voilà, je sature moi-même. Sur Instagram, j'ai fini par bien préciser que je ne consultais pas mes messages privés parce que je suis continuellement taguée tout le temps. Maintenant, j'ouvre juste le truc pour retirer la notification. Je ne lis pas. Et de temps en temps, il y a mes yeux qui presque accidentellement frôlent des messages. Je vois déjà des mots-clés, quoi. Je commence à les reconnaître. Et je me dis, il y a encore parfois un peu un règlement de compte. Mais voilà, c'est le fait de taguer l'auteur et de ne pas lui donner le foie. C'est une question.
Et après, tu dis, mais lire une critique constructive et lire quelque chose de gratuitement méchant, c'est pas pareil. Effectivement, mais là, c'est pas la question. La question, c'est que critique constructive ou remarque méchante, c'est à l'auteur de décider s'il a envie ou pas de la lire. Et le fait de taguer l'auteur et de lui imposer, son ressenti, ses émotions, c'est d'une violence folle. Parce que moi, je n'ai pas écrit ce livre. Enfin, vraiment, je ne suis pas payée pour en parler. Je n'ai pas écrit ce bouquin. J'ai été impactée par tout ce que je lisais. J'étais dans une colère. J'avais envie de brûler tout le monde. Wow. Donc, en fait, si tu veux, je me suis projetée. Je me suis dit, mais quand elle va lire ça ? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, quand j'ai dit tout ça, je n'ai pas dit que je parlais en particulier de ton cas, évidemment. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on peut amener justement, sans vouloir, le harcèlement sur d'autres. Et mettre la lumière sur ça, tu vois, c'est aussi une forme de... Enfin, tu t'envenimes un petit peu tout ça. Donc, j'ai jamais dit que c'était toi, sauf à la toute fin, quand les gens m'ont fait chier et que tu avais déjà réagi. J'ai dit, voilà le résultat. Je le savais. Je le savais, en fait. Ça fait 10 jours que je le vois, je vois le truc venir. Et le problème, c'est que les gens se rendent pas compte de l'impact que les mots qu'on peut avoir et des réactions qu'on peut avoir publiquement peuvent avoir sur nous, quoi. Alors, moi, j'ai jamais eu ça parce que j'ai sorti un bouquin, mais j'ai jamais vu de critique vraiment négative parce que c'était pas un roman, c'était un guide pratique. Par contre, voilà, je suis souvent dans les shitstorms qu'il peut y avoir dans le monde. Enfin, j'étais en tout cas à l'époque parce que j'étais grande gueule et que je voulais absolument, notamment sur la professionnalisation de nos métiers, je voulais absolument faire comprendre aux gens que ce qu'on faisait c'était une forme de travail et que même si tout le monde ne pouvait pas forcément prétendre à rémunération, on avait le droit au respect et qu'on avait le droit d'exiger des conditions. Potable au moins, tu vois.
Oui.
Et là, je m'étais vraiment... moi, je me suis fait cracher dessus. J'ai reçu des menaces. Mais de gens... mais en plus de gens que je pensais défendre. Et ça m'a vraiment... en toute honnêteté, et maintenant, je m'en cache plus. J'en parlais pas avant parce que c'était une forme de faiblesse à mes yeux. Mais moi, ça m'a détruit. Il y a encore des fois aujourd'hui où même des fois, c'est sur l'aspect physique ou mental... dernièrement, c'était sur mes origines ethniques, où il y a eu des remises en question de mes origines, où encore aujourd'hui, j'ai un espèce de blocage et je passe mon temps à me demander si oui ou non je suis comme ça ou comme si. Et les gens ne se rendent pas compte, c'est pas forcément fait avec malveillance, mais c'est quand même fait, c'est là, et ça nous traumatise tout le temps. Donc on se dit peut-être qu'on va dire une bêtise et que pour une bêtise. On va extrapoler et ça part loin en fait
ça part très très loin là, effectivement.
Ça part très très loin et ça impacte tout le monde. La personne qui va vous dire oh non moi je m'en fous, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mmh. Parce que sur 100 commentaires positifs, t'en as deux négatifs. Ceux que tu retiens, c'est les négatifs.
Ah, bah ça laisse ça fait un impact fort. Et il y a, du coup, sur le chat, Lali qui demande, bah, à tes débuts sur Internet, tu répondais beaucoup aux commentaires négatifs.
Je répondais à beaucoup. Moi, j'ai toujours été dans la réponse, en fait. Parce que j'étais grande gueule et parce que j'étais en mode, ben, il s'adresse directement à moi, j'ai un droit de réponse. Tu vois. Sauf qu'en fait, maintenant, j'ai plus l'énergie, j'ai plus envie. Et donc, du coup, je ne réponds plus. Maintenant, j'hésite plus à supprimer, par exemple, tu vois. Mais même si je le supprime, le truc est plus là, je l'ai quand même lu et il me fait quand même du mal.
Oui, ouais, ça travaille quand même en arrière-plan.
C'est ça. Mais je me dis, au moins le supprimer, les autres ne le verront pas, ne pourront pas. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est que moi, j'ai une communauté excessivement bienveillante qui va tout faire pour me défendre. Mmh. Et c'est comme ça qu'on crée le harcèlement, finalement, le cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'une personne qui va s'en prendre à moi publiquement sur les réseaux sociaux, si je réponds, ma communauté va voir, si je réagis, ma communauté voit, potentiellement, ils vont vouloir me défendre. Et même si ça part d'une extrême bonne intention, ben, ça crée un mouvement... qui peut devenir très très vite du harcèlement. Donc je préfère supprimer avant même qu'il y ait ça qui apparaisse.
Ouais. Ouais. C'est pas évident de gérer ça. Je sais que je n'ai pas le même tempérament que toi par rapport à ça, et j'ai toujours pris le parti de ne jamais répondre.
Ouais. Mais tu fais bien, moi je réponds plus maintenant.
À partir du moment où je me suis dit, bon, clairement la personne qui laisse un commentaire, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est pas résolu en elle, quoi. Il y a un truc, ça fait une sorte de friction intérieure qui l'a poussée à réagir, mais c'est finalement c'est un problème entre elle et elle. Je me dis, je m'en mêle pas.
Mais t'as raison.
Peut-être
pas
aujourd'hui, ce sera peut-être pas demain, mais peut-être que dans quelques années, ça fera la paix.
C'est ça. Et en gros, moi, les seules fois où je vais réagir, c'est quand je suis en tort. Quand, par exemple, si on me reproche quelque chose, je me remets en question tout de suite.
Eh oui, bien sûr.
Tu vois. Mais si on m'agresse, je vais quand même me remettre en question, mais ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que si je sais que je suis en tort ou si je prends conscience que je suis en tort, et même si je ne le suis pas forcément, si j'ai blessé quelqu'un ou quoi, je vais répondre publiquement pour m'excuser, pour expliquer qu'effectivement j'ai potentiellement fait une erreur. Et voilà, expliquer que j'essaye de m'améliorer ou quoi. Mais c'est difficile ça aussi. Et les gens qui le font, pour moi, ils sont courageux. Parce que même si tu t'excuses, même si tu dis que t'avais pas compris ou que tu peux, ça s'arrête pas pour autant. Parce que y a peut-être sur les, je sais pas, 100 personnes qui ont vu ça et qui se sont fait une idée, une opinion sur toi, y en aura peut-être 10 ou 15 qui vont voir ta réponse et qui vont se dire peut-être que c'était pas si méchant, tu vois. Mais c'est pour ça, genre les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un outil formidable, vraiment. On peut faire des grandes choses avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de créativité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'artistes incroyables sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Et il ne faut pas l'oublier. Et vraiment, moi, j'en parle souvent sur Twitch. C'est des questions qu'on aborde régulièrement. Parce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez de ça. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle plus de ces problématiques-là pour faire des débats, mais aussi essayer de d'éduquer les gens
oui,
à ça.
La fameuse netiquette, je ne sais plus si le terme existe maintenant, mais dans les années, j'allais dire 90, dans les années 90, on parlait de la netiquette, c'est une sorte de, d'étiquette de savoir-vivre sur Internet. Je crois que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié.
Un peu.
Ça s'est un peu perdu de vue. Et Internet a ce côté très désinhibant. Le fait d'être...
C'est derrière un écran.
Peut-être derrière l'écran. Il y a quelque chose... La parole se libère, mais c'est un peu comme si t'étais... C'est le ça qui va s'exprimer, le ça avec l'inconscient là, qui parle directement. T'as pas de filtre, en fait. Et peut-être qu'effectivement... Alors, j'allais dire, les gens ne se rendent pas toujours compte de l'impact que ça a, et parfois, ils s'en rendent compte. Moi, je sais que j'avais eu le cas de personnes qui se sont exprimées vraiment à chaud. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas répondu, et d'elle-même, le lendemain, qui me recontactait pour présenter des excuses parce qu'elle réalisait à tête reposée, elle avait laissé passer une nuit, elle avait dormi dessus, et à tête reposée, elle s'était rendue compte que vraiment, les paroles avaient dépassé les pensées et que ça avait été trop fort. Donc, heureusement, moi, ça me fait plaisir quand je me dis, ça montre quand même aussi que les personnes peuvent être d'elles-mêmes, se rendre compte que parfois les mots ont un impact. Mais voilà, c'était pas représentatif de tout le monde.
Ah oui, évidemment, mais moi je dis ça, mais je suis la première, hein, je suis la première à travailler là-dessus parce que j'étais la première, moi, à créer des shitstorms sans arrêt parce que il fallait que quand j'étais pas. J'aime pas les injustices. Donc quand j'étais pas d'accord avec un truc, il fallait que je le dise à tout prix. Maintenant, je le fais plus. Tu vois, mais donc moi-même, je me suis éduquée et encore aujourd'hui, j'essaye de m'éduquer parce que personne n'est parfait et qu'on apprend tous les jours. Mais ouais, on a quand même, on peut avoir cette impression de marcher sur des œufs, mais c'est à raison. Parce que s'il y a des œufs, c'est que potentiellement derrière, on peut faire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens se rendent pas forcément compte de ça. Donc moi, je dirais qu'il faut pas avoir peur, mais il faut quand même bien se poser les questions de si oui ou non on se sent les épaules de le faire, parce que tout le monde n'a pas les épaules. Et c'est OK, il n'y a pas à culpabiliser ou à se sentir inférieur parce qu'on ne se sent pas prêt à ça, quoi.
Ah bah complètement, ça. Et là, moi, ce qui me fait penser, c'est toute cette communauté. Alors, je pense, toi, tu parlais de ta communauté, tu dis qu'elle est très bienveillante. Moi-même, hein, je vois que notamment toutes les autres rencontres que j'ai faites sur le Discord, j'ai jamais eu de problème de troll ou de personnes vraiment malveillantes qui sont venues et qui ont pourri l'ambiance. Je me dis, ça fait du bien d'avoir des espaces ainsi où ça se déroule très bien.
Safe.
Ouais, ça fait vraiment du bien.
C'est clair.
Et justement, alors là, c'est juste pour voir un petit aperçu de tous les réseaux sociaux sur lesquels toi tu es, parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Alors, si je ne me trompe pas, attends, il y a YouTube, Twitch, TikTok. Ouais. Instagram, Discord, Twitter, Facebook.
Ouais.
J'en ai oublié.
Pinterest.
Ah oui, Pinterest.
Mais très rapidement, Pinterest.
Comment tu t'en sors? Parce que moi, j'en ai ciblé certains, mais même ainsi, il y a des moments, j'ai du mal. Hein, donc, toi, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu t'es mis dans tous ces réseaux? Est-ce que certains sont plus spécialisés pour un type de contenu plutôt qu'un autre?
Comment ça se passe? En fait, c'est pas la même communauté. Pardon, c'est pas la même communauté sur tous les réseaux. Et surtout, c'est pas la même manière de s'exprimer. Et comment dire? Et t'as pas le même rapport avec les gens sur tous les réseaux. Par exemple, puis ça évolue. Par exemple, moi, mon réseau social préféré à l'époque, c'était Twitter. Parce que sur Twitter, c'était l'immédiateté, c'était le question-réponse avec les gens, c'était là-bas que j'avais le plus d'interactions avec ma communauté. Parce que YouTube, finalement, c'est du commentaire. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction. Il y en a une, parce qu'il y a le commentaire qui est déposé, mais le commentaire n'est pas sur l'instantané.
Oui,
et souvent, il
n'y
a pas vraiment d'échange sur un commentaire, tu vois. Et donc, sur Twitter, j'avais ce côté-là. Maintenant, Twitter, c'est devenu très compliqué. J'ai souvent hésité à supprimer mon compte Twitter, d'ailleurs. Mais j'aime quand même toujours Twitter, parce que si tu arrives à faire l'impasse sur tout le négatif qu'il peut y avoir sur ce réseau social, il y a quand même de très belles choses qui se font sur Twitter. Moi, je me suis beaucoup éduquée sur Twitter sur des sujets très importants, tels le racisme, le féminisme, tout ça. Je ne me suis pas éduquée sur l'homophobie, mais pour vaincre tout ça, on a bien compris, hein. et du coup, il y a plein de sujets qui sont abordés sur ce réseau social-là, qui sont très importants. Et moi, je m'éduque en voyant les communautés en fait s'exprimer et faire ressentir ce qu'elles peuvent ressentir. Donc, il y a du bon et du mauvais à prendre sur chaque réseau social. Mais dernièrement, depuis qu'il y a Twitch, en fait, Twitch est venu totalement récupérer l'attrait que j'avais pour Twitter. Parce que c'est dans l'immédiateté totale. Et ça regroupe exactement tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a de la création visuelle. Il y a de l'événementiel que je peux créer. Il y a de l'instantané, du cocooning, des trucs pas forcément très travaillés aussi. Mais surtout, il y a la communauté, quoi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je lance un live, je sais que je vais retrouver ma communauté. Et que je vais pouvoir vraiment parler avec, échanger avec et partager. Et je me suis jamais sentie aussi proche de ma communauté en 8 ans de création de contenu que depuis que je suis sur Twitch. Alors que je pensais que j'avais vraiment un lien très fort avec ma communauté avant. Mais donc chaque réseau social a vraiment, tu vois, son attrait et sa manière de communiquer et son but, tu vois. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je suis un petit peu partout. Et aussi parce que si je fais tout le temps la même chose, je m'ennuie. Donc le fait d'être un petit peu partout, ça me permet de faire bosser ma créativité. Ça ne veut pas dire que je suis très régulière partout. Hein. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas possible.
Alors moi, je commence un tout petit peu à connaître un tout petit peu plus Twitch, mais il n'y a pas si longtemps, pour moi, c'était un univers que je ne maîtrisais pas du tout. Et j'ai fini par comprendre en fait que les vidéos qu'on fait dessus ne sont pas disponibles tout le temps. Elles vont être disponibles pendant une certaine durée, puis après, elles sont archivées.
Exactement.
Donc, après, là, c'est là où ça peut être intéressant pour toi, c'est de les remettre après sur YouTube, par exemple.
Exactement, et c'est ce qui est prévu.
D'accord.
C'est ce qui est prévu. En fait, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire qui, pour le moment, n'est pas vraiment d'actualité, parce que, à chaque fois, j'ai plein de projets, mais je me laisse un petit peu prendre par mes projets. Mais effectivement, il y a une chaîne secondaire qui va me permettre de mettre des replays ou de mettre des let's play. Donc par exemple, quand je joue à un jeu vidéo, il y aura du montage qui va permettre de récupérer les moments les plus importants, les plus forts, et de les mettre sur YouTube pour que les gens puissent, s'ils en ont envie, les regarder, parce que tout le monde ne peut pas être tout le temps sur Twitch. Quand je stream, moi je stream entre 3 et 6 heures par jour. Donc
oui,
les gens, ils ont une vie aussi, quoi.
Oui, quand même. Je n'avais pas mesuré que c'était... ça fait quand même une belle partie de ta journée qui est un... Et je comprends quand tu dis que tu n'as pas beaucoup de temps, je comprends.
C'est que c'est devenu mon réseau social principal et du coup, j'ai moins de temps pour le reste. Donc, c'est un peu compliqué. Mais oui, non, en fait, tout le contenu qu'on peut créer peut être réexploité derrière. Moi, j'appelle ça le recyclage du contenu. C'est-à-dire qu'un contenu, par exemple, un live que je vais faire sur Twitch où je dessine, en ce moment j'ai un carnet de lecture où je fais de l'aquarelle dedans, c'est-à-dire que toutes mes lectures je vais les représenter à l'aquarelle. Je vais le faire en direct sur Twitch et ensuite je vais récupérer ce direct sur Twitch que je vais remonter pour en faire un Instagram ou un TikTok, et donc ça me fait potentiellement 3 contenus derrière. Le dessin à la fin, je peux aussi en faire un post sur Insta. Je peux le partager sur Twitter, je peux le partager un petit peu partout, je peux le partager sur Pinterest. C'est vraiment du contenu que tu peux réexploiter, sauf que le format va changer. Et oui. Le travail, il est là, en fait. Il est de réadapter le format.
Oui, parce qu'en fait, chaque réseau social a un petit peu, comme tu dis, son format à lui. C'est la question que je vais te poser, parce que, par exemple, TikTok, j'y connais rien du tout, mais j'ai compris que c'était des vidéos.
Exactement.
Pour toi, la différence entre TikTok et YouTube, ce serait quoi ?
TikTok, c'est du consommable immédiat. TikTok, c'est des secondes. Un TikTok long, ça ne marchera jamais aussi bien qu'un TikTok court,
par
exemple.
C'est le Twitter de la vidéo.
c'est le Twitter de la vidéo, exactement. C'est pas le même ton, non plus. TikTok, ça peut être beaucoup plus humoristique. En fait, c'est une manière de faire passer des messages très vite, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme et souvent pas mal d'humour. Donc, une vidéo TikTok, ça fonctionnerait pas forcément sur YouTube.
Oui, donc effectivement, c'est toujours ce culte de la vitesse.
Les gens n'ont plus le temps. Mais c'est paradoxal, tu vois, parce que les gens n'ont plus le temps, mais en même temps, les contenus longs sont en train de reprendre un petit peu du galon, quoi. Parce que les gens n'ont plus le temps de regarder une vidéo YouTube, mais par contre, les gens ont le temps de passer 3 heures avec moi sur Twitch, donc faut qu'on m'explique. Mais parce que pareil, on ne consomme pas du tout pareil YouTube que Twitch, ou Twitch et Twitter, ou voilà, les gens qui vont, par exemple, regarder, je sais pas, il y a des pips dans la salle, dites-moi pourquoi vous regardez Twitch, mais souvent, moi, quand je regarde... Moi, je passe ma journée à travailler avec en fond sonore un live, par exemple.
D'accord.
Parce que ça me permet de me sentir moins seule. J'écoute ça comme un podcast, en fait.
Oui, c'est peut-être la notion de lien aussi, de connexion avec d'autres personnes.
C'est ça. C'est-à-dire que même si je ne suis pas forcément toujours très active dans les chats, j'ai l'impression de participer à un tout, en fait, et d'appartenir à une communauté aussi.
Oui, donc effectivement, ouais, je comprends mieux.
Et c'est pour ça que je fais une distinction, et je sais que peut-être je ne devrais pas, mais moi, il y a une vraie distinction qui se fait dans ma tête entre les pips et les petits dops.
Alors là, il va falloir qu'on fasse maintenant de la terminologie. Explique-nous. Les pips,
alors,
c'est qui ?
Les pips c'était à la base les pipous. Parce qu'en fait, moi, j'ai des tics de langage, comme n'importe qui, et de temps en temps, je vais appeler tout le monde Kiki, et puis le mois d'après, j'appelle tout le monde Pipou. Et là, ça fait un petit moment que j'appelle tout le monde Pipou.
D'accord.
Et en fait, j'appelais tout le monde, j'appelais les gens sur Twitch Pipou, bah parce que comme c'est de l'instantané et que c'est du live, ça sortait tout seul. Et sauf que il y a pas mal de communautés sur Twitch qui s'appellent les Pipou. Je me suis dit, bah en fait, j'ai pas envie de piquer les noms des communautés des autres ou. Et rapidement, moi, je fais souvent des surnoms sur des surnoms. Donc les Pipou sont devenus les Pips, qui sont devenus aussi les Pipsouillons. Mais c'est un. Ça. Voilà. Et les petits dop, voilà. Et les petits dop, bah c'est parce que Bulldop.
D'accord.
Bulldop, petit dop. Et donc petit dop, c'était ma communauté sur YouTube.
Donc on est d'accord que là, c'est propre à ta communauté. On ne va pas trouver ce terme ailleurs.
Hein. Non. Non. Il y a pas de. Normalement, il y a pas de Pipsouillon et de petit dop ailleurs. C'est aussi un moyen aussi de nous retrouver derrière un nom. Souvent, on donne des noms instinctivement à nos communautés parce que on peut pas dire s'il y a par exemple 200 personnes sur le live, on peut pas saluer les 200 personnes qui regardent le live tout le temps.
D'accord.
Par contre, si on se regroupe derrière un mot, enfin moi je suis une pips aussi, par exemple.
D'accord. C'est vraiment la bannière, c'est le
c'est
qui va rallier les personnes.
C'est ça.
D'accord. Ben non, voilà.
Mais en fait, j'en ai pas sur les autres réseaux sociaux. C'est vraiment sur. Enfin, pour moi, les pips, ils sont partout sur tous mes réseaux sociaux, par exemple. Les petits dops sont pas forcément partout sur mes réseaux sociaux. Mais les pips, oui, parce que les pips. Je crois que le pips, c'est le noyau dur de ma communauté, en fait.
D'accord.
C'est genre. C'est la communauté la plus.
Fidèles.
Enfin, c'est les personnes qui sont les plus fidèles, ouais.
Voilà, donc, qui vont pas du tout tous les contenus,
exactement.
Sur tous les médias, voilà, je comprends.
Exactement. Il y a vraiment beaucoup plus. Enfin, il y a une. Enfin, peut-être que je me trompe, mais moi, je me sens très proche du Pips plus que du petit dop. Les Pips, je les connais, par exemple. Ceux qui parlent dans le chat, je les connais tous.
D'accord. Bah, c'est ce que j'ai un peu connu comme équivalence là avec la passe miroir. Bah, il y a tout un noyau de. Auteurs, artistes et autres aussi qui se sont formés et se sont donné pour nom la clique de l'écharpe. Voilà, la fameuse clique de l'écharpe. Ben voilà, c'est pareil, moi je les connais maintenant, je les ai rencontrés plusieurs fois, elles font partie un peu de. Ben, ça, quand tu parles des pips, ben, je pense à la clique de l'écharpe.
Bah oui, mais parce que toi aussi tu es influenceuse, Christelle. Et
cette
oui.
Pression d'un coup là.
Attention à ce que tu dis.
Non mais après bon, il y a le petit noyau là, parce que c'est un tout petit noyau la clique. Après c'est vrai que c'est tout un temps. Moi c'est maintenant j'ai un peu, j'utilise moi, mais tout un temps je parlais des liseurs et des liseuses parce que ça fait référence directement à l'univers de la passe miroir et c'est en lien avec la littérature, donc les personnes comprenaient. Voilà, comprenez le terme.
Ah ouais, on comprend direct. Mais ouais. je connaissais tout. Mais en fait, je crois que je suis une clique de l'écharpe, mais plus discrète.
Tout à fait.
Je fais partie de la clique de l'écharpe dans son coin.
La clique de l'écharpe dans son coin.
C'est qui ne loupe rien, mais qui ne dit rien.
Pas facile à prononcer, ça.
La clique de l'écharpe dans son coin. Ouais, j'avoue. Il faudrait que je trouve un petit diminutif à tout ça. La clique coin.
La clique coin.
La clique quoi.
Et alors après, je ne sais pas si toi tu le ressens pareil, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des réseaux sociaux qui, alors certains qui sont voilà en train vraiment de prendre de la vitesse, et d'autres qui sont un peu en train de péricliter. Alors ça dépend peut-être après des générations et du contenu, mais moi je m'en suis rendu compte que à mes débuts, quand j'étais publiée, ben, j'étais très présente sur Facebook, je reliais beaucoup sur Facebook, et vous voyez que c'était vraiment là que j'avais beaucoup de personnes qui allaient suivre. Alors que maintenant, je vois que c'est en perte de vitesse. Alors, mon site internet, là, limite secondaire. Alors que pour moi, c'est le noyau central de ma communication. Tout commence par le site, puis après, je diffuse ailleurs. Mais, alors que par exemple, sur Instagram, je vois que c'est plutôt croissant. Et c'est marrant de voir, justement, de voir comme ça, comme certains réseaux sociaux. Instagram, bah, à la base, c'est plutôt de l'image. C'est pas évident de se dire que tiens, bah, ça va se développer aussi dans le domaine du livre, alors que complètement, maintenant ça se fait. Mais voilà, je sais pas si toi-même tu as ce ressenti qu'il y a certains réseaux sociaux aussi qui sont peut-être en perte de vitesse, alors que d'autres, on le voit en poupe.
Mais c'est normal en fait. C'est Internet et sur Internet tout va vite. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis aussi sur tous les réseaux sociaux. Parce que moi je suis passionnée par tout ça. Genre la communication sur Internet, ça me passionne. Je trouve ça incroyable de voir comment ça fonctionne. Et c'est normal effectivement que ça change. En fait, c'est des effets de mode un peu. Et on le voit, par exemple, moi quand j'ai commencé, j'étais sur les blogs, c'était les blogs qui avaient le vent en poupe.
Eh oui, oui, j'ai et connu cette époque passée, des blogs.
Voilà. Et quand je suis passée sur YouTube, après c'était YouTube qui a eu le vent en poupe. Et là, maintenant, moi ça fait quelques années maintenant que je dis aux gens, le prochain truc ce sera TikTok et Twitch.
Bon, je dis ça, moi j'ai connu le Minitel. Hein.
Moi aussi j'ai connu le Minitel. Oh, vous avec quand j'étais petite.
C'est bien, voilà.
Il y a eu l'époque des forums. Mais en fait c'est normal tout. Oui. C'est un perpétuel mouvement qui se fait et qui fait la richesse justement d'Internet. Et là, tu dis Instagram. Moi, pour moi, Instagram, par exemple, c'est déjà dans le down. C'est déjà en train de...
C'est déjà en train de perdre la vitesse.
C'est ça. C'est en perte de vitesse. Et ce qui va remplacer Instagram, ce sera TikTok. Et à mes yeux, ce qui va remplacer YouTube, ce sera Twitch. Peut-être que j'ai tort, tu vois, parce que je suis pas non plus devin. Mais je le sens un peu comme ça.
Tu es quand même sur le terrain. Hein, sur tous les terrains, même, j'ai envie de dire. Donc...
Ouais, mais tu peux jamais savoir en fait. Mmh. Mais d'habitude, moi j'ai un petit peu le nez pour ça. C'est-à-dire que genre Instagram, j'avais flairé le truc un petit peu rapidement et c'est moi qui avais dit à pas mal de mes potes influenceurs du coup, pas dans le monde du livre, mais pourquoi vous êtes pas sur Instagram? Parce que pour eux, il y avait pas d'intérêt à aller sur Instagram parce que pour le moment, il y avait pas grand monde ou et voilà, après chacun, on n'est pas obligé d'être partout en fait. Moi, il y a des réseaux que je préfère à d'autres et je vais les favoriser. Du coup, je vais créer plus de contenu sur cela. Je me force pas, par exemple, à créer parce que je sais que là-bas il y a du monde. Parce que sinon, par exemple, j'aurais choisi TikTok à la place de Twitch.
Eh oui, il faut que c'est du sens.
Il faut savoir que pour TikTok, notamment, quand j'ai créé mon compte TikTok et que j'ai commencé à faire des vidéos TikTok, j'étais la première à arriver sur le bouquin en TikTok.
D'accord.
Mais c'était pas un contenu que j'appréciais. J'aimais bien, je trouve ça rigolo en fait, c'est très créatif aussi. Il y a plein de choses qui peuvent se faire avec TikTok et j'ai pas mal d'idées encore. Mais moi, à cette époque-là, j'étais déjà sur Twitch et c'est sur Twitch que je trouvais ce que je recherchais. Donc, je pouvais pas tout faire. J'ai choisi de prendre mon temps et de faire ce que je voulais sur Twitch. Et donc, du coup, il y en a plein qui diront « mais c'est complètement stupide !» Si t'étais resté sur TikTok, t'aurais encore plus percé. Ouais, mais est-ce que je fais ça pour percer? Je suis pas sûre.
Il faut voir ce qui fait sens pour toi.
C'est ça. Et moi, ce qui fait sens pour moi, c'est que pour le moment, même si effectivement, j'ai pas des milliers d'abonnés sur Twitch, j'ai une communauté que j'adore et je propose du contenu que j'aime beaucoup et j'ai plein de projets qui arrivent et c'est là-bas que je me sens le mieux, quoi. Donc c'est là-bas que je crée en priorité. Voilà. Genre, c'est des priorités dans la vie. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des TikTok, mais par exemple, si je dois choisir entre un stream et un TikTok, je vais choisir le stream.
Le stream. Là, tu m'avais très gentiment proposé de m'initier à Twitch, hein, si je souhaitais un jour m'y mettre.
Hein, oui.
Tu t'étais très gentiment proposé. Je retiens d'ailleurs la proposition. moi-même, hein, de temps en temps, ça me gratouille un petit peu hein, la tête. Je me dis, tiens, est-ce que... là, j'ai vu hein, sur le chat, hein, je n'ai pas réagi à tout le monde, mais je lis hein, les messages, j'ai un sourire jusqu'aux lèvres, hein, tellement il y a une belle ambiance sur le chat. Et des personnes qui disaient, ouais, bah, tiens, pourquoi pas un Twitch de la passe miroir hein, avec moi, ou alors des sessions d'écriture sur Twitch.
Oui.
Et ça, là, vraiment, je ne sais même pas si je serais capable.
C'est dur, hein. Moi, j'ai ma meilleure amie qui fait ça, c'est pas facile, hein.
Honnêtement, j'ai déjà ma réponse. Hein. Je pense que là, s'il s'agit vraiment d'écrire un projet de roman, de manuscrit dans lequel je suis, là, j'ai tellement besoin d'être dans ma bulle hein, que c'est un public derrière, ça va pas le faire.
Ah ouais, c'est clair.
Mais il y a des idées, comme ça qu'il faut un peu creuser. Hein, faut voir.
Il y a des sessions de lecture aussi qui se font sur Twitch. Bah pareil. Mais tu sais qui c'est, Nine?
Suis-moi, c'est Nine.
Nine, tu vois Nine.
Nine, tout à fait, oui.
Voilà, des lectures de Nine. Quand elle est débarquée sur Twitch, elle a ramené justement le sprint. Le sprint, c'est elle qui l'a ramené. Elle l'avait vu un petit peu aux États-Unis et surtout dans les pays je crois que c'est au Brésil où c'est vachement diffusé le sprint.
En gros, c'est... le sprint, oui, c'est quoi?
Ouais, en gros, le sprint, c'est un peu la méthode Pomodoro, comme le dit Lali, où en fait, c'est les gens qui se retrouvent sur un stream. Le stream, c'est le live sur Twitch. Pendant 20 minutes, ils vont papoter de sujets divers et variés. Et ensuite, pendant 45 minutes, il y a un compteur à l'affiche et il y a juste, il coupe le son, il laisse juste l'image. Et donc, il y a le compteur qui tourne et pendant 45 minutes, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Donc, il y a les sprints de lecture où tu as des gens qui lisent, en fait. Donc, tu as une personne qui lit devant la caméra et les autres, pendant les 45 minutes, lisent de leur côté. Ensuite, ils font 15 minutes de pause où ils parlent tous et ainsi de suite.
D'accord. Alors, tu connais Kung Fu Panda?
Pas du tout.
T'as pas vu Kung Fu Panda? Tu le connais pas?
Le
film d'animation?
Alors, non, je l'ai pas vu, non.
Bon, bah, dedans, il y a un personnage que j'adore, c'est Maître Gouai, c'est la tortue.
Et ouais.
C'est tellement moi, cette tortue. qui commence une conversation, puis qui décide d'éteindre une bougie en soufflant dessus, mais qui va souffler 10 fois avant d'arriver à éteindre la bougie. C'est une épreuve pour les nerfs, et pour la patience. Mais, moi, je me reconnais beaucoup dans cette tortue-là. Je pense que je ne suis pas faite pour le format de sprint. Mais pourquoi ouais, non, pas c'est... Pourquoi pas? Après, je me dis, il faut. Après, il y a des tempéraments, il y a des gens, ça va peut-être faire une émulation, comme on en parlait tout à l'heure.
C'est un exercice et c'est difficile parce que, par exemple, moi, quand Neil a commencé à faire ça sur Twitch, il y a pas mal de gens dans ma communauté qui m'ont demandé de faire la même chose. Mais en fait, moi, j'en serais incapable, vraiment. Oui. Parce que ça veut dire que pendant que tu lis, il y a des gens qui te regardent. Et moi, je trouve ça un peu étrange tout de même, tu vois. Enfin, à titre personnel. Je m'en sens pas capable. Je trouve ça beaucoup plus simple d'échanger, de parler, de jouer que, en fait, je me sentirais observée, j'arriverais pas à me concentrer, c'est sûr.
Je suis en train de t'imaginer en sprint tricot là, tu vois.
Mais en fait, les sprints tricot, on fait un petit peu parce que ça prend pas pote en fait. Parce que le tricot, tu peux faire et tu peux papoter. Et surtout, l'avantage des live tricots, c'est que comme c'est en réel. Les gens qui font en même temps que moi, je leur apprends. Quand ils ont une question, ils posent directement et je leur montre directement la réponse, tu vois.
D'accord.
Donc en fait, le sprint n'a pas vraiment lieu d'être parce que vaut mieux papoter. Sinon, tu regardes un film avec les gens, tu vois. Il y a aussi des watch parties, donc des séances de visionnage de films, par exemple. Mmh. Et donc, autant faire une watch party où tout le monde tricote. Et puis si jamais quelqu'un a un problème, il pose la question, on me pose au film et puis je réponds et puis tu vois.
Oui, donc tu t'appropries un petit peu le concept, mais à ta sauce.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais c'est bien.
C'est ça. Tu m'étonnes, Mawin, les gens qui nous regardent manger. Parce que, alors, le stream a cette chose particulière que vraiment, quand je vous dis qu'il y a une espèce de proximité très forte, je mange en stream, moi, des fois. Et les gens me regardent manger, du coup.
Alors moi,
mais parce que j'ai pas envie de couper quand on est dans cette conversation.
Vous n'avez pas envie de me voir manger.
Bah, non, mais c'est fou en fait quand on y pense. Regardez, ils savent tout ce que je mange. On fait des crêpes, voilà, on cuisine, on fait plein de choses.
Ah, mais ben ça.
Je les emmène aussi en extérieur.
Il faut voir
on
aussi.
Va dessiner.
Alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que les confinements qu'on a vécu, ça n'a pas eu aussi eu un impact là-dessus et le fait de pas pouvoir se voir en présentiel. D'avoir moins de vie sociale, est-ce que du coup ça n'a pas créé des petits coins de web comme ça, on peut se retrouver à plusieurs et avoir un peu de chaleur humaine.
Ouais, non mais c'est ça, hein. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi il y a toujours un stream qui tourne en fond, parce que quand je suis arrivée à Paris et que je me suis retrouvée toute seule dans l'appartement,
ouais.
Seule est un grand mot, Inka est là tout de même.
Oui, mais
quand tu travailles seule et que t'es seule toute la journée, avoir l'impression de d'être dans un groupe et de voir des gens qui te parlent,
oui.
C'est comme les gens qui laissent tourner la radio toute la journée ou la télé toute la journée, finalement, c'est une présence.
Oui, je comprends.
Et le confinement, je pense, a vraiment joué dans le développement de Twitch. Vraiment.
Je pense qu'il y a eu, que ça a eu effectivement des impacts, même Discord, qui... avant le confinement, était très spécialisé dans le domaine du gaming et qui finalement maintenant, on a des discords sur à peu près tous les sujets.
Oui, c'est ça. Et puis ça tend encore plus à se développer. Il y aura de tout, tu vois. Par exemple, là, Mawin qui est dans le chat dit que quand elle était en Écosse, elle streamait. Donc elle faisait des lives là-bas. pendant son voyage et que bah, des fois, quand elle se posait à des pubs ou dans des restaurants, les gens la regardaient manger du coup. Mais ça, c'est vraiment propre à Twitch, je trouve.
D'accord.
Où on embarque vraiment les gens avec nous et ils vivent avec nous et ils découvrent ce qu'on découvre.
D'accord.
Et du coup, ouais, tu voyages aussi. Tu peux voyager, en tout cas.
Mais c'est intéressant.
Derrière un écran, mais bon.
Mais, non, mais je trouve que, humainement, en fait, on vient d'aborder énormément de sujets. Hein, rien que sur le plan humain, social, individuel. Enfin, là, avec toi, on vient d'aborder énormément de choses et je trouve ça passionnant.
Oh. Bon, on n'a pas vraiment parlé de... Si, on a quand même parlé de réseaux sociaux.
Ah bah oui.
Est-ce que j'ai arnaqué, là? Je vous ai arnaqué?
Ah, moi, je, personnellement, je me suis régalée. Hein, la conversation avec toi, j'ai trouvé ça passionnant. Tu me disais, oh, je ne sais pas si j'aurais quelque chose d'intéressant à dire, mais... mais c'était passionnant.
C'est une piquette, hein.
Et non seulement...
6 heures par jour.
Ouais, tu as peut-être de l'expérience, plus que moi, parce que moi...
Il faut savoir meubler.
Ouais, ouais, là j'ai fait ma grande conversation de la journée. Après, ça va être silence pendant des heures.
Moi, je vais me décider si oui ou non je prends cet appartement. Mais ouais, non, mais il faut que tu viennes sur. En gros, petit conseil, cri-cri. Là, maintenant, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit temps de retard tout de même. À chaque fois.
Oui.
Là, maintenant, il faut que tu sois sur TikTok. Vraiment. Mais je peux t'aider. Tu sais bien que c'est
je sais que même si je ne fais rien, tu le feras à ma place. Hein, je te connais.
Voilà, là, je suis en train de lancer la propagande. Je suis en cours, j'insulte les gens et tout. J'essaye de passer ça avec de l'humour, tu vois. Mais ça marche bien, tu sais. Je vais t'envoyer un TikTok, tu vas me dire, oh, putain, mais elle est folle, celle-là.
Non, mais c'est que tu comprends, pour le moment, je viens juste de commencer à réaliser. En fait, tout récemment, il y a Gallimard Jeunesse qui, à la sortie de l'occasion du tome 4 en poche, a lancé, tu sais, ce fameux filtre.
Oui,
Instagram,
oui.
Super sympa. Tu le sais, puisque toi-même, voilà, t'étais en premier rang pour le voir et pour le faire. Mais moi-même, on m'a demandé ce serait bien que, voilà, tu inaugures le filtre d'Instagram. Mais ça m'a pris 3 plombes pour comprendre ce truc-là. Moi, je m'étais jamais, moi, mon téléphone, mais je m'en sers pour téléphoner, je m'en sers pas pour faire des vidéos, des photos.
Christelle, s'il te plaît, arrête de t'exprimer telle une boumeuse. Ça suffit. Tu es sur Discord, ne dis pas que tu es incapable. Discord, c'est déjà l'étape au-dessus, hein, tout de même.
Oui, ça m'a pris du temps pour Discord, mais j'ai regardé plein de tutos avant et ça m'a...
Bah oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Tu crois qu'on fait comment? C'est pas inné, hein.
Mais voilà. Non, mais c'est pour dire que voilà, je sais que j'ai un temps de retard, hein. J'en suis tout à fait consciente. Peut-être même 2 ou 3 temps de retard, même. Mais,
ouais, mais tu t'adaptes quand même.
C'est mon espace-temps.
Tu t'adaptes. Et puis, en vrai, si tu as besoin d'aide, tu sais que...
Mais je sais. Je te remercie beaucoup.
Voilà. Je serai toujours là pour toi, Christelle.
Voilà. On va terminer sur la grosse séquence émotion.
Voilà, parce que je viens de te gronder, donc du coup, maintenant, je mets la pommade.
Oh, mais moi, je considère pas ça comme une gronderie. Hein. Je sens toute ta bienveillance quand tu me dis ça.
Bah oui. C'est parce que je sens que tu peux aller encore tellement plus loin. Même si t'es déjà vachement loin, et on est tous très fiers de toi,
pour que tu le saches. On dirait mon compagnon, il emploie exactement les mêmes termes.
Mais oui, mais tu n'as pas conscience. Là, il faut absolument, je vais t'envoyer tous les TikTok que je vois sur la passe miroir, parce que vraiment, c'est pour ça que je suis énervée contre TikTok France, là. C'est quoi ce bordel, là, les gens?
Tout doux.
Je vais taper mon petit coup de gueule.
Tout doux.
C'est une blague, hein, bien sûr, je rigole. Mais la passe miroir, on a la chance d'avoir... cette série incroyable, qui en plus est francophone, qui est écrite genre merveilleusement bien par une personne incroyable. Pourquoi est-ce qu'on se bat pas plus pour nos titres français alors que La Passe Miroir est en train de cartonner sur TikTok dans les pays anglophones? Tu vois, bah c'est ça, c'est ce côté un petit peu frustration, je me dis.
C'est marrant de voir justement le phénomène...
C'est
très rigolo en fait.
C'est
toi qui me l'as appris. Hein. Quand moi je suis pas sur TikTok et tu me disais, ah mais tiens, on parle beaucoup de la passion rare sur le TikTok anglo-saxon. Et moi, ah bon.
C'est ça. C'est ça. C'est sur les tables. Et tu sais, TikTok ça a une énorme force de frappe en termes de vente. Hein.
Non, je me rends pas compte de tout ça.
Ben, je pense que tu te rendras compte quand tu auras tes chiffres. En tout cas, je te le souhaite vraiment. Mais non, vraiment. Puis moi je trouve ça trop bien en fait. Ça prouve que vraiment les réseaux sociaux. Ça peut faire de très très belles choses. Enfin, pardon, peut-être qu'on n'a pas tant d'influence que ça, mais un peu quand même. Et si on peut donner envie à des gens de lire des titres qu'on aime, moi je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Donc là, TikTok, c'est un nouveau public. C'est des petits jeunes, ils n'ont pas encore vu Mamie Bubu avec son martinet. T'inquiète, j'arrive. Mamie Bubu arrive avec le martinet. Et il est de quatre couleurs différentes. Devinez lesquelles.
Oh, comme tu dis ça bien.
Non, non, mais c'est vrai, il y a un truc à faire. Enfin,
c'est bien, c'est bien. Avec Émilie, je me sens comme un petit poussin.
Tu vas voir. Je vais les taper pour toi.
Oui. Je te remercie en tout cas pour tout ce que tu as apporté à la passe miroir et à moi-même.
Bah non, c'est normal.
J'ai vu passer aussi de très jolis messages sur le chat. Désolé, je ne réagis pas en direct à tout le monde, mais voilà, je vois des très très gentils messages qui passent sur le chat. Merci beaucoup à tout le monde. Et là, je trouve que la collision des deux communautés, c'est la mienne et la tienne, ça donne un cocktail vraiment sympathique. Il y a une très très belle ambiance.
Ça fait elles sont belles, plaisir. Nos communautés.
Oui. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en commun.
Oui, c'est ça.
Comme ça, il y en a beaucoup de personnes qui te connaissent, qui ont connu la passion à travers toi. Je pense que c'est lié.
Mais ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font partie des deux communautés.
Mais c'était un plaisir à tout point de vue, dans ce moment, de pouvoir échanger avec toi. Et vraiment, moi, je me suis régalée, pas vu le temps passer. Et de voir justement aussi sur le chat, ça c'est la seule chose que je ne peux pas enregistrer dans l'audio, mais voilà, ces messages-là qui apportent aussi beaucoup de dimensions.
Alors je me permets du coup, oui, je me permets, tu vois ce format-là, là, juste avec de l'audio, c'est un format qui serait merveilleux pour Twitch aussi, et là tu aurais le chat en plus. Je dis ça, je dis rien.
Il faut juste que j'apprenne à m'en servir.
Je vais tout apprendre.
Oh, merci.
Ça fait je vais tout apprendre.
Limite indécent, mais merci.
Mais non. En vrai, parce que le chat est enregistré du coup sur Twitch. Oui. Je dis ça, je dis rien. Fin c'est de la propagande
vrai.
Twitch. Je ne suis pas rémunérée par Twitch pour être ici. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde du livre avec Twitch. Et je veux que Cricri soit dessus.
Bon, je te remercie, Émilie, mais là, voilà. T'étais en train de me convertir, j'avoue, je sens que
c'est... Non, mais j'ai pas fini. Mais je vais te choper en MP, tu vas voir.
Je sais, non, mais je sais, je te connais.
Mais oui, non, merci en tout cas pour l'invitation, c'était vraiment super. Moi, j'ai pas vu le temps de passer non plus. Oh. On est parti très loin, mais je trouve que c'est les meilleurs moments quand on parle un petit peu de tout comme ça.
Eh ben, c'était bien. C'était
Donc, merci beaucoup pour l'invitation et...
Un grand plaisir pour moi.
Et on est là, et on est fiers.
Voilà.
Et j'ai envie de relire la passe miroir pour la je ne sais combien de fois. C'est affreux.
Mmh. En tout cas, merci Émilie. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui, qui ont porté une très très belle ambiance à la rencontre. Alors, je n'ai pas oublié d'enregistrer. Je vérifie, ce serait dommage, je m'aperçois que je n'ai pas enregistré depuis. C'est bien enregistré. J'ai bien enregistré la rencontre. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu être là, je diffuserai ça sur mon site. Je stocke le fichier, c'est une amie qui m'a appris à stocker sur l'hébergeur de mon site et puis après j'arrive à récupérer pour qu'il soit audible en replay sur le site. Je ne sais pas encore comment faire autrement, il y a peut-être des stratégies plus simples, je ne les connais pas encore. Mais je retiens qu'avec Twitch, du coup, ce serait plus simple, voilà.
Ce serait tout de même plus simple.
Je retiens.
Mais ce serait pareil pour ceux qui ne sont pas convaincus par Twitch parce qu'ils ne comprennent rien. Pareil, je vous apprendrai sans souci.
On fera la transition ensemble le jour où on l'a fait.
Voilà.
Un grand, grand merci à tout le monde. Merci, Émilie.
Merci beaucoup.
Et à bientôt à la revoyure.
Oui, à très vite.
Au revoir.
Au revoir.